Bien. Alors, ça commence, comme chacun sait, ça commence d'abord par parler. Mon cher Abbé nous reçoit l'ordre de parler au Kohanim. Et donc, on les met en garde et on leur dit que ils n'ont pas le droit de se rendre impurs. On parle ici de se rendre impurs en particulier contact avec un mort. Et du coup, ça pose le problème de comment est-ce qu'ils peuvent s'occuper d'un mort familial. Alors, de quel mort est-ce qu'ils peuvent s'occuper, desquels ils ne peuvent pas s'occuper, jusqu'au Kohen Gadol qui, lui, ne s'occupe de personne. Parce que ça, Kedusha, quelque part, l'idée de Kedusha, elle dit que ils sont requis. On est mobilisé pour quelque chose de bien précis, et donc même pour des choses qui pourraient nous paraître qui sont importantes, ben, tu n'es pas là, tu peux pas. C'est des circonstances dans lesquelles tu peux pas là, tu peux pas t'en occuper. Alors il y a aujourd'hui malheureusement des gens qui ont été dans cette situation-là où ils n'ont pas pu s'occuper de eux-mêmes, de leur mort, quoi. Il y a d'autres gens qui s'en sont occupés, on les a enterrés hors de leur présence, sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Certains ont pu avoir une tahara, d'autres n'ont pas pu avoir une tahara. Bon, quelque part, c'est une espèce d'expérience, bon, pour les mêmes raisons du tout, mais voilà, cette expérience-là, elle existe. Elle aura existé pour d'autres que pour les Kohanim. Ensuite, on parle des moumim, c'est-à-dire de défauts corporels qui feraient que un Kohen ne peut pas fonctionner, en tout cas sur le devant de la scène. Il est bien sûr qu'il est Kohen, il a des restrictions et il va pouvoir manger des corbanotes, des choses comme ça, mais il n'est pas sur le devant de la scène, bon, parce qu'il a des défauts. Et bon, alors maintenant, pourquoi est-ce qu'effectivement on accorde des défauts, on accorde de l'importance à ces défauts? On pourrait se dire, mais quand même, les questions spirituelles qui sont en cause ici, elles sont nettement plus élevées. On ne devrait pas s'arrêter à des questions purement extérieures, purement physiques. Qu'est-ce que ça change que celui-ci soit comme c'est, il est, ce défaut ou l'autre? L'important, c'est la qualité morale ou la spiritualité, finalement. C'est quand même étonnant qu'on tienne compte de questions purement extérieures qui ne disqualifient absolument pas, bien entendu, la personne qui est affligée de ses défauts, mais de facto, il ne peut pas fonctionner normalement comme avec tout ce que le Kohen peut faire. Donc pourquoi est-ce que c'est comme ça? On peut se demander quand même, qu'est-ce qui se passe là? C'est qui là? Est-ce qu'il y a un problème avec sa caméra? C'est parti. Voilà. Donc, si vous voulez, cette question-là, elle est un peu ouverte. Pourquoi est-ce qu'on a... Bon, elle vient pas seulement ici, mais en particulier, elle est dite ici. Alors, certains disent que, si vous voulez, il y a un aspect extérieur des choses. C'est, par exemple, quelque chose qu'on a déjà vu sur un autre plan. Quand... Au moment de l'inauguration du Mishkan, pendant les 8 premiers jours, c'est Moshe Rabbeinu qui fonctionnait comme Kohen Gadol. Seulement après qu'il a transmis la charge à son frère Aaron. Mais quand Moshe Rabbeinu fonctionnait comme Kohen Gadol, il n'avait pas les habits que Aaron aura par la suite, les fameux 8 habits que Aaron a. Un Kohen normal, il a 4 habits. Et le Kohen Gadol, il y en avait 8. Eh bien, c'est un peu étonnant. Et le Kohen Gadol, il a des habits de la para, le tiferet. C'est pour la splendeur. Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin de ça. Moshe Rabbeinu, il a fonctionné en vêtements blancs. C'est-à-dire les vêtements que le Kohen Gadol utilise, lui aussi, quand il entre dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippour. Quand il entre à Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim, il ne vient pas avec ses habits d'apparat. il change d'avis, change beaucoup d'avis pendant Yom Kippour d'ailleurs, mais il change d'avis et il va avec des vêtements blancs, avec des vêtements simples, de lin, c'est tout. Il entre sans apparat. On voit très bien que quand est-ce qu'on a besoin, il a besoin de cet apparat. Aaron a besoin de cet apparat quand il apparaît en public, en quelque sorte. Et donc, le public, ça veut dire que le public a besoin de cela. Moshe Rabbeinu, il avait pendant une aura telle qu'il n'en avait pas besoin. Les gens, Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, donc il n'avait pas à se déguiser, il n'avait pas à s'embellir, à se rendre plus splendide. Si vous voulez, il n'y a pas de splendeur nécessaire pour Moshe Rabbeinu. Mais pour Aaron, c'était nécessaire. Et donc, on voit très bien que pour l'extérieur, il y a une valeur sur l'esthétique, en quelque sorte, ou sur l'aspect extérieur des choses. On pourrait dire, est-ce qu'on ne devrait pas éduquer le peuple à ne pas s'arrêter sur les questions extérieures? Il y a quelqu'un ici qui joue avec sa caméra. Ça fait mal aux yeux. Ah ben c'est Paul. Paul, vous voulez pas stabiliser votre caméra, s'il vous plaît? Voilà. Merci. Et on préférerait vous voir, si déjà. Et
parti.
Alors, la caméra est arrêtée. Pardon? C'est très bien.
La caméra est arrêtée, là.
Arrêté?
Oui, oui. Il n'y a plus de caméra.
Parfait. Non, mais je voulais. Ça ne me dérange pas qu'il y ait une caméra, mais pas une caméra qui saute. Oui. Et donc là, on pourrait dire que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si les gens voient qu'on utilise des gens, enfin, on utilise, que les gens qui s'occupent du Beth Amikdash, finalement, sont des gens qui ont des défauts, alors, si vous voulez, ça fait un espèce d'effet, pour ceux auxquels ça dit quelque chose, ça fait un effet quasimodo un peu. C'est-à-dire que dans certaines familles, on donnait, dans les familles françaises, le fils aîné, il allait à la guerre, l'autre, il devenait, je sais pas, agriculteur, et puis les derniers, on les mettait là où, dans des endroits où on les voyait pas, et éventuellement, ils devenaient sonneurs de cloche à l'église. L'avdil, c'est ici, on peut dire qu'on veut pas que les gens disent que, voilà, est-ce que c'est un endroit où ne vont que les gens qui ont des défauts. Quelque part, les gens qui ont pas de défauts, ils ont pas besoin de, ils s'occupent pas de ces choses-là. Donc, ça a une valeur à cause des gens, parce que visiblement, on est obligé de tenir compte de cela.
Il me semble que c'est
rien du tout quant à la qualité des gens. Oui.
Non, il me semble que c'est dit aussi que si le Cohen aurait eu un défaut, les gens auraient tendance à regarder, c'est-à-dire à se concentrer sur justement la partie défaillante, on va dire, et ça empêcherait quelque part l'attention requise.
Ce que vous dites est juste, c'est dit sur Birkat Kohanim, c'est dit sur les Kohanim que si un Kohen avait un problème, il avait, je sais pas, des mains palmées ou des trucs comme ça, les gens quand il va comme il tend les mains, les gens, au lieu de se concentrer sur ce qu'il est en train de leur dire, de la bracha, d'accepter la bracha, etc., de se mettre en position d'accepter, ils allaient être fascinés ou dérangés par, ils vont regarder le défaut. Il y a des défauts qui seraient complètement couverts par les vêtements, on verrait pas du tout, d'accord, qui sont des moumimes, d'accord, et la personne ne peut pas fonctionner alors que on le verrait pas du tout. Donc c'est un peu compliqué, c'est-à-dire on a donné une valeur à des défauts, y compris ceux qui seraient couverts par les vêtements. Parce qu'on pourrait dire, ben alors, ceux qui ont des défauts qui sont pas couverts par les vêtements, alors d'accord, on va pas les exposer. Mais ceux qui mettent de toute manière, ils ont des vêtements qui couvriraient les défauts en question, on pourrait très bien dire pourquoi pas, puisque personne ne le sait. Non, on veut pas non plus. On n'a pas fait de différence. s'il y a des défauts, les gens, ils vont dire, ouais, mais peut-être, quelqu'un saura, oui, tu sais, en vérité, il y a un défaut, on le voit pas parce que, etc. Bon. Visiblement, ça a à voir avec un souci esthétique, un souci de, peut-être, comme vous dites, de, dans certains cas, on voudrait pouvoir se concentrer sur cette histoire de, des mains, des koanim. C'est comme si vous voulez, imaginez qu'un Kohen, en fait, dans Berkat Kohanim aujourd'hui, le Kohen, il monte pour faire Berkat Kohanim, il a un trou à sa chaussette. Alors, les gens, ils verront que le trou à la chaussette, ils vont se consacrer sur le trou à sa chaussette. Et ils vont pas écouter ce qu'il est en train de leur transmettre comme bracha. Et, alors, maintenant, en passant, je peux vous dire que on a demandé un jour à Rav Abramsky, qui était Madame Gadol, en Rosh Yeshiva, à Londres, etc., l'énorme Talmid Chacham, lui a demandé à quoi vous pensez quand vous recevez le Berkat Kohanim dans la synagogue, donc le Berkat Kohanim. Alors lui, il disait, moi je m'expose, comme quand quelqu'un il s'expose au soleil. J'essaie d'en prendre le plus possible de la bracha qui m'est envoyée, quoi. Et voilà, je voulais comprendre que voilà, on m'envoie de la bracha. Voilà, je suis preneur, je prends. Donc, je m'expose au maximum. Je pense que c'est une très belle définition de la réception qu'on doit faire des brachot. Je m'envoie des brachot, alors prenons-les. Remercions et prenons-les. C'est juste en passant, puisqu'on parle de Berkat Kohanim ici. Donc, je saute cette partie-là, qui parle justement de l'impureté et des défauts des Kohanim. Puis ensuite, on va parler de un petit peu d'autre chose. Il y a encore des défauts. Cette fois-ci, les défauts des animaux qu'on aimerait comme corban. Là non plus, on veut pas que ce soit les rebuts qu'on donne comme corban. Oh, voilà, cet animal, on peut rien en faire. Il peut pas servir ce taureau, il peut pas, ou ce bœuf, ce taureau, il peut pas servir, pas l'utiliser vraiment. Bon, alors on va en faire un corban. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de donner des animaux qui n'ont pas de défauts. Il y a toujours ce problème des défauts sur lequel peut-être il vaudrait mieux de revenir encore. Maintenant, dans la quatrième montée, c'est au chapitre 23, Kaf Gimel. Et Hachem parle à Moshe Rabbeinu pour que lui le répercute, et il lui dit, parle au Bnei Israël et tu leur diras, Moadei Hachem, Asher Tikru Otam Mikrei Kodesh, Elehem Moadai. Voilà, il y a des Moadim, on a dit, ce sont des rendez-vous du clan Israël avec Hachem. Vous appellerez, ce seront des cinq convocations, c'est-à-dire, il faut se considérer comme appelé. On est appelé à ça, on est appelé à ce rendez-vous. Et voilà mes rendez-vous, et commence une énumération. Et puis, le premier rendez-vous qui est présenté au pasuk Gimel, qu'est-ce que c'est le premier rendez-vous avec Hachem? Sheshet yamim ta'ase melacha, ou bayom hashvi, shabbat, shabbaton, mikra kodesh, kol melachat avoda, kol melacha lo ta'asu, Shabbat hi l'Hashem, chol moshvotechem. Moed Shabbat. C'est très étonnant. On annonce, Elehem Moadai, voici mes Moadim, Tok Shabbat. D'ailleurs, on voit bien qu'il y avait un petit problème, puisque le verset d'après, c'est Ele Moadai Hashem. Mikrae Kodesh Atikrotam et Moadam. On recommence. Voici mes Moadim. Mais on avait déjà dit, voici mes Moadim. Et là, du coup, la deuxième fois, c'est vraiment l'introduction de tous les Moadim, on va avoir toute la liste. Alors maintenant, il s'agit de regarder pourquoi on nous a amené ici, pourquoi la Torah, elle amène Shabbat, alors que ce qui est annoncé, ce sont des Moadim. Alors, regardez Rashi d'abord. Le Rashi dit, « Taber el bnei Israël, etc., Moadé Hashem. » Alors, Rashi dit, Assez moadot, chez you Israël, melumadim bahem. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fais des moadim, que les Bnei Israël soient et l'habitude, enfin les connaissent, ils connaissent ces moadim. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire ici? Rashi continue ici et il dit Shemabrim et Hashana al Galuyot Sheneiku Mimkomam la alot la regel ve'adain lo igiyu l'Yerushalayim. Un dîme technique en fait. Le problème, c'est il y a un problème, dit Rashi, Me'abrim et Hashana. Qu'est-ce que ça veut dire? Me'abrim et Hashana, vous savez, c'est ce mois supplémentaire, Adar Sheni. Vous souvenez, il y a une halakha qui dit que nous, notre calendrier, c'est un calendrier lunaire, et donc on perdrait sur l'année solaire 11 jours toutes les années, et disons un mois au bout de 3 ans. On a perdu quasiment un mois, un peu plus. Donc, il va falloir corriger cela. Pourquoi il faut corriger? Il faut corriger parce que les moadim qui vont être présentés ici, ce sont des moadim qui sont présentés comme étant liés à l'année solaire parce qu'ils sont liés à des événements comme la moisson, comme le mûrissement, etc. Et tout ce qui concerne, si vous voulez, justement ces choses-là, c'est-à-dire les mois, enfin quand est-ce que les choses mûrissent, etc. Ça dépend de l'année solaire, ça dépend pas de l'année lunaire. Donc comme il y a une obligation de veiller à ce que certaines fêtes se passent à des moments bien précis de l'année agricole, si vous voulez, on est obligé de se mettre en face. Alors maintenant, le problème, c'est les gens qui étaient en galoute et qui se préparaient pour aller dans les fêtes où on est olé la régale, c'est-à-dire des fêtes de, comme on dit, de pèlerinage. En fait, les gens, ils partaient pour monter à Yerushalayim, pour être à Yerushalayim le moment de la fête. Mais suivant d'où ils venaient, ils partaient très tôt dans l'année. Et donc, il y avait un problème parce que peut-être ils se sont mis en marche. Et entre-temps, on va décaler la fête d'un mois. Imaginez, ils s'imaginent, ils savent qu'ils ont besoin, disons, d'un mois de voyage pour arriver à Yerushalayim à temps. Donc, ils vont partir dans ce qu'ils pensent être la mi-Adar. Pour Purim, quasiment, ils vont partir de chez eux pour aller à Yerushalayim, pour être le 15 Nissan en Eretz Israël à Yerushalayim. Mais au bout de, je sais pas, de 10-15 jours de voyage, on leur apprend que on a décidé d'ajouter un mois supplémentaire à l'année, on a mis un Adar Sheni. C'est-à-dire que ça repousse Pessah d'un mois qu'ils vont faire. Est-ce qu'on peut faire une chose pareille? C'est de ça que parle Rashi, il dit, mais abrim et hashana al galuyot shene ekru mimkomam la lot la regel, ve'adain lo igiu l'Yerushalayim. On va avoir un problème? Est-ce qu'on peut quand même être Me'aber Shana, puisqu'il y a des Galouyotes, des gens qui viennent de loin, de l'extérieur, Galout, et qui sont jamais en marche. Donc il y a un problème. Donc Rashi parle de ça au milieu. Tout à coup, on voit pas très bien qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ça parle ici de ce problème-là. On va voir ça par la suite. Et puis ensuite, Rashi dit, il ramène Sheshet Yamim, et donc Rashi pose la question: Ma'inyan Shabbat et Tzel Moadot? Pourquoi on cite Shabbat alors qu'on est dans un paragraphe qui concerne les Moadim? Alors Rashi répond: La Melcha Shekol Amchalel et Amoadot Ma'alin Alav Keilu Chilel et Ashabbatot. Kol Amekayem et Amoadot Ma'alin Alav Keilu Yam est à Shabbatot. Donc ici, on nous enseigne un principe. Les moadim, ça a une certaine importance, si vous voulez, mais le moed, on pourrait penser que, bon, c'est pas aussi important que Shabbat. Quelle est l'importance de Shabbat? Le Shabbat, c'est un témoignage, quasiment. Certains disent que c'est ce que nous faisons quand on dit Vaïkhoulou Hachemem. On témoigne qu'Hachem est le créateur du monde. Vaïkhoulou, ça veut dire Hachem, on témoigne sur la création du monde. Donc il y a dans le Shabbat quelque chose qui est de l'ordre à la fois de la création du monde, et comme vous savez, on parle de trois choses concernant Shabbat. On parle de le Shabbat de la création, il y a le Shabbat de Matan Torah, et puis il y a le Shabbat qui est le Shabbat, c'est-à-dire la fin des temps. Si on parle de tout ça, quand on parle de Shabbat, y compris dans Zecher Al-Maaseh Bereshit, et puis ensuite, on voit ça dans les trois tefillot, par exemple. La tefilla de Shabbat du soir, elle parle de quoi? Elle parle de Bereshit. D'accord? On parle uniquement de Bereshit. Celle du matin, on parle de Yismach Moshe, Matan Trelko, on parle du Matan Torah. Et la tefilla de Mincha, elle parle de l'Alfi de Lavo, Avraham Yager, Yitzhak Iranel, etc. Donc, dans Shabbat, quelque part, le Shabbat marque un temps des étapes absolument fondamentales, c'est-à-dire à la limite création du monde, don de la Torah et Olam Haba, Motamashiach, Olam Haba, c'est des choses absolument fondamentales. Donc on comprend très bien que celui qui ne respecte pas le Shabbat, quelque part, il nie l'essentiel, il nie que Hachem a créé le monde, qu'il nous a donné la Torah et qui est Tratamétim et Olamaba. Donc ça, c'est extrêmement important. Dans les Moadim, bon, c'est grave, Hachem donnait un rendez-vous et on ne vient pas, quoi, quelque part. Celui qui ne respecte pas les Moadot, comme on dit ici, c'est marqué Moadot, il y a un rendez-vous avec Hachem et on n'y est pas. Celui qui ne respecte pas les Moadim, il n'est pas venu au rendez-vous. Ok, alors c'est grave, parce que c'est un rendez-vous d'Hachem, c'est Mikra Kodesh, c'est une espèce de convocation, t'es appelé à venir et tu viens pas, c'est grave. Mais c'est pas aussi grave que de nier les choses aussi fondamentales qui sont en cause dans Shabbat. Donc, nous mettre ici la paracha de Shabbat, c'est pour nous dire que celui qui transgresse, qui profane les Moadot, ce sera considéré comme s'il avait profané les Shabbatot. C'est pas au même plan, mais on va le considérer comme. C'est-à-dire, on donne tout à coup une dimension supplémentaire au Moadim dans la transgression. C'est très grave de transgresser. Mais le texte de Rashi, que Rashi cite, en fait, c'est un texte encore plus riche parce que c'est pas seulement qu'on te dit que si tu respectes pas le rendez-vous avec Hachem, c'est comme si tu avais été Makhal le Shabbat. On te dit le contraire aussi. Si tu respectes les Moadim, Ma'alim alav ki'ilu ki'yam et Shabbat. On va valider les choses pour lui comme s'il avait accompli les Shabbatot. C'est-à-dire, quelque part, il y a une valeur qui est donnée au Moadim dans les deux sens. Pas seulement que c'est grave de transgresser, mais que, au contraire, quand tu l'es, enfin, pas au contraire, mais que quand tu pratiques ça, tu pratiques, et c'est mis à la hauteur, la même hauteur que le Shabbat. Et ça, c'est extrêmement intéressant de donner une dimension particulière, une dimension du Shabbat au Moadim. C'est-à-dire que, comme Shabbat est tellement important, c'est marqué que, quelque part, celui qui est un Moumar, le Khalel Shabbat, celui qui est habitué à transgresser le Shabbat, c'est comme s'il transgressait toute la Torah. Et donc là, on est en train de dire la même chose. Que celui qui transgresse les Yamim Tovim, les Moadim, c'est comme s'il transgressait toute la Torah. Donc j'ai pas vu de texte qui dise ça, mais dans ce Rashi, ça semble être le cas. Et donc ici, ça justifie la présence de Shabbat dans, comme dit Rashi, Ma'inyan Shabbat et Tselemo Adot. Qu'est-ce que fait le Shabbat ici, alors qu'on est dans une paracha de Mo'adot? Alors, je vais vous lire un peu ce que dit ici le Ahmed Davar sur le début. Ahmed Davar dit sur le pasouk qui dit Ele Moade Hashem Ikrai Kodesh. Voici les Moadim d'Hashem qui sont les saintes communications, comme on dit, les saintes convocations, pardon, pas communication, convocations. Shakadosh Baruch Hu Kara Otam Mikrae Kodesh Liomadim. Qu'est-ce que Rashi dit? Qu'est-ce que dit ici voilà, c'est, Akadosh Baruch Hu les a appelés ça, hein, Mikrae Kodesh. Donc, le Yom Hadin, quelque part, il y a un jugement ces jours-là. Donc, quelque part, il y a un Yom Hadin. On va voir ce que ça veut dire. Asher tikru otam bemoadam, she az tikru gamatem. Je veux que vous aussi, vous les considériez comme des Moadim. C'est pas seulement du point de vue d'Hachem. Vous vous souvenez, on a déjà parlé de cette histoire de des Moadim qui sont des rencontres avec Hachem, mais qui sont décidées à la fois par Hachem et aussi par les Bnei Israël grâce au fait que c'est les Bnei Israël qui déterminent le calendrier. Vous vous souvenez, on a dit ça comme la première mitzvah qui a été donnée. Les Bnei Israël définissent le calendrier. Et puisqu'ils définissent le calendrier, alors quand Hachem dit le rendez-vous c'est le 15, mais ce sont les Bnei Israël qui disent quand sera le 15. Puisque c'est eux qui disent quand commence le mois. Donc, tikru otam, le moadam, shas tikru gamatem. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette dracha? Regardez le texte. D'abord les Bnei Israël, d'amarta alehem, moadé Hachem, Asher tikru otam mikrae kodesh elehem moadai. Vous les appellerez, enfin, oui, vous appellerez, mais c'est presque une dracha, comme si c'était marqué Asher tikru gamatem, parce que le otam il est écrit chaser, il n'y a pas de vav dans otam. Non, c'est écrit alef tav mem. Donc, on pourrait lire Asher tikru atem mikrae kodesh. Que vous allez appeler sainte convocation. Aussi, mes moadim, c'est vous qui les appelez. Et donc, c'est pour ça que le mec d'Avar, il dit là-dedans, il dit ce verset, Mishumachi, Shina Katuv, Shem, Ve'igdim Mikra Kodesh, le Mikrao Otam. C'est-à-dire, il faut dire d'abord sur Mikra et Kodesh, et ensuite, Shatikru Otam Mikrae Kodesh. Donc on a inversé l'ordre, comme si c'était nous qui allions définir les Mikrae Kodesh, en fait. Alors, ensuite, il y a Sheshet Yamim Taasem Lafa Uyam Ashvi. Alors, il dit Kvariku Ikshu Chazal Torah Kohanim. Ce que Rashi a rapporté, c'est un Torah Kohanim, c'est un Midrash Halakha. Hazal ont déjà demandé, Ma'inyan Shabbatot, Etzel Moadim. Qu'est-ce que Shabbat fait dans la liste des Moadim? Et alors, il ramène ici, il dit, le Fi Abshat, Katav Aramban. Vous vous souvenez, on vient de lire ce que Rashi a dit. Maintenant, le Ramban, il dit comme ça. Sheba Lelamed, Ki Gam Bebor Echad Mina Moadim, Be Shabbat, לא תתראה מצוות שמחת יום טוב את השבת. Ramban vient dire ici que le fait d'avoir mis Shabbat en tête, ça veut dire que Shabbat est là et il a priorité d'une certaine manière sur les Moadim. On pourrait penser, donc c'est ça que le Ramban vient dire, que pour dire que c'est pas le cas, on aurait pu penser que ce rendez-vous avec Hachem repousse le Shabbat. C'est un rendez-vous exceptionnel. Donc le Shabbat qui vient toutes les semaines, ok, cette semaine-là, on fera pas Shabbat, on fera Yom Tov. On aurait pu penser cela. Et donc le fait de mettre Shabbat en tête de la parasha des Moadim, ça vient nous dire que non, la caractéristique de Yom Tov, c'est la Simcha. Yom Tov, c'est un jour de Simcha. Il n'y a pas de Simcha de Shabbat. Shabbat, il y a un honnête Shabbat, il y a une jouissance du Shabbat, il n'y a pas de mitzvah de Simcha. Dans Yom Tov, il y a même un korban qui s'appelle korban Simcha, le cas échéant. Enfin, on va manger de la viande pour être en joie. Il n'y a pas d'obligation d'être en joie au Shabbat. D'accord ? Et donc on pourrait penser que cette joie de Yom Tov va repousser Shabbat. Velonema Zouk Mo Moussafe Yom Tov chez Doche Shabbat. Gafilu, bon, le rabbin Eliezer de Betsachim, Dafsamechet, il pense que Simchat Yom Tov rechoute. Le Simchat Yom Tov, c'est seulement une permission, en quelque sorte, c'est un rechoute. Il est modé, Beshalme Simcha, Shu Mitzvah, il est d'accord qu'il y a une mitzvah d'apporter des korbanot de Simcha, c'est-à-dire d'apporter de la viande pour se réjouir. Et Kolmakom, Eno Doche Shabbat, néanmoins, ça repousse pas Shabbat, on peut pas les faire Shabbat. Alors on va dire ici que le Shabbat, c'est ici Shabbat Shabbaton. Il va y avoir cette idée là de Shabbat Shabbaton. Où est-ce que c'est dit Shabbat Shabbaton? C'est marqué ou bien Yom Hashvi Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat Shabbaton? Certains pensent que Shabbat Shabbaton c'est un super Shabbat, mais c'est exactement le contraire. Shabbaton, mashmao, bechol makom, leaktin, hashvita. Ça vient partout pour diminuer le côté Shabbat. C'est pour ça que c'est marqué, Yom Tov, que c'est Shabbaton. Pourquoi c'est, Yom Tov c'est seulement Shabbaton et pas Shabbat? Parce que mishum de melechet ochel nefesh, mutar. Comme vous savez, ce qui concerne le cuir préparé à manger pour Yom Tov, c'est permis, Yom Tov. Alors que ce n'est pas permis pour Shabbat. On ne peut pas cuire pendant Shabbat pour Shabbat. Alors qu'on peut cuire pendant Yom Tov pour Yom Tov. Il faut utiliser une flamme déjà existante, mais cuire, on peut cuire. On peut même faire la shrita. Aval be Shabbat be Rishit k'tiv. Mais quand on parle de Shabbat, en référence au Shabbat qui est le Shabbat qu'Hachem a fait lorsqu'il a créé le monde, bah c'est marqué Ktiv Bechol Makom Shabbat. Pas marqué Shabbaton. Ou Makom Dirtiv Shabbat Shabbaton En Mashma Ole Aktin Ashvita. Donc quand on dit Shabbat Shabbaton, ça veut dire, on va dire Shabbaton qui pourrait laisser penser on va diminuer, mais on a dit Shabbat d'abord pour dire non, ici on va pas diminuer. Parce que c'est marqué Shabbat d'abord. Alors qu'est-ce que ça vient dire? Et là, le Hatsir Zman Ashvita. Aïnou, Sheinbo Tosefet. Il n'y aura pas de, on va pas ajouter au Shabbat. Aïnou, Dita, Vemaser, Edmoed Katan, Gimel, Nemar Shabbat Shabbaton, Be Shabbat Bereshit. Alors, c'est au sud de Jet du Shabbat de Rishit, il est dit Shabbat Shabbaton. Achi Kara Nusar, Kmo Shehuva Ve Tosfot Rosh Hashana Daftet, Renu Anusar Beshiltot, etc. Venemar Shabbat Shabbaton Beshvi'it, c'est marqué aussi la Shemitah, elle est présentée comme un Shabbat Shabbaton. Là, Shabbat Shabbaton Ve Shabbat de Rishit, le Fanav ou le Acharav Mutar, Af, Aval, Nikol Makom, Eno, Soter, Adrash, de, Mi, Etaj Bitu, c'est, Etaj Shabbat Rem, pardon, de Tosef et Shabbat, Viyom Tov, Asur, Bimlacha, après la majorité des poskim. Et là, l'octiv Shabbat, Shabbaton, Shabbat Bereshit, Rak, Makom, Mitzvah. C'est-à-dire, comme dans, peut-être avec dans le Parshat Tissa ou dans Vayakel, qu'avait Emlechet Amishkan, le Chen Kan Beshabbat, Shechal Bo Yom Tov, Moutar Levachel, ou que Domé, le Tzorek Yom Tov, Mishum Mitzvah Simchat Yom Tov. L'Achim Ochar, c'est obligatoire parce qu'on voit que la femme de Rabbi Yosef, il dit qu'à Nerot, Stamouk le Shabbat, Shabbat Kodesh, c'est marqué, bon, il apporte le rad, je ne peux pas maintenant tout lire ici, le détail de la lomdos de la chose. Mais ce qu'on dit, tout ce qu'on a gagné, en quelque sorte, ou perdu, c'est que quand il y a Shabbat et Yom Tov, alors on a l'habitude dans Shabbat de commencer Shabbat un petit peu plus tôt, d'ajouter à l'entrée et d'ajouter à la sortie. Alors ça, on le fait pas quand c'est Yom Tov. C'est-à-dire, dans ce supplément-là, on peut cuire pour Yom Tov. On peut allumer les nérotes pour Yom Tov. Bon, ça veut dire on est ce supplément-là, il n'a pas un dîme de Shabbat complet quand il y a Yom Tov. C'est seulement dans ce cas-là que Yom Tov repousse un peu Shabbat. Mais il repousse pas du tout le Shabbat, le vrai Shabbat, il repousse seulement la Tosefet de Shabbat. Donc ici, on apprend en même temps la halakha que à Shabbat, on doit empiéter en faveur du Shabbat sur la semaine, avant et après le Shabbat, mais que quand c'est Yom Tov, pour Yom Tov, on ne fait pas cet empiétement, et par rapport à Yom Tov, on s'en tient au Shabbat stricto sensu. Donc ça, c'est que ce que dit ici le Amek Davar. Donc on dit l'otasu, kol melachalot asu, Shabbat il Hashem, le kol moshvatechem dans toutes vos résidences. En fait, ça veut dire, d'après le pshat, ça veut dire que Simchat Yom Tov ne repousse pas le Shabbat parce que c'est Shabbat, c'est une mitzvah qui est fixe et que bon, on peut pas repousser Shabbat. C'est pas, par exemple, la Mila, on va la faire Shabbat. On télévise Mana. Bon. Donc, on voit très bien qu'il y a des situations où on repousse le Shabbat, enfin, on repousse. On met le Shabbat entre parenthèses, dans certains cas. Et c'est pas le cas pour Yom Tov. La Simchat Yom Tov, elle ne repousse pas. C'est pour ça que le Shabbat est placé ici comme introduction. D'accord, c'est comme si on a dit voilà mes moadim, attention, il y a Shabbat d'abord, et Shabbat va bloquer les choses, vous pouvez pas, voilà, Yom Tov va pas empiéter sur le Shabbat. Maintenant, une fois que je t'ai dit ça, je peux te redire, voici les moadim. Maintenant, on peut parler des moadim, on peut parler des fêtes, effectivement. Voilà, on va commencer un petit peu ces moadim.
C'est quoi l'idée de Yom Adim?
Alors ça, on va voir. On va voir, vous savez, vous connaissez la Mishnah, que il y a Arba Rosh Hashanim, il y a quatre Rosh Hashanah, et on dit, par exemple, le Pessah, on n'y donne, Pessah, on est jugé sur la récolte. On est à Sukkot, on est jugé sur l'eau. Shavuot, on est jugé sur les fruits des arbres. Donc c'est un Yom Adin, d'une certaine manière, pour nous, pour en ski. Évidemment, c'est pas les arbres qui sont jugés, c'est nous qui sommes jugés par rapport à certaines choses. Il y a une notion de Yom Adin dans les Yamim Tovim, en fait. C'est que un rendez-vous avec Hachem, c'est ça qu'il faudra un petit peu garder, un rendez-vous avec Hachem, c'est quand même, je me trouve devant Hachem, et donc, je suis automatiquement jugé. Ça veut dire, quelque part, même les fêtes de, comme on dit, les fêtes de pèlerinage, quand on va, qu'est-ce que ça, il y a une mitzvah de Riyah, d'aller voir et être vu par Hachem. On va voir la splendeur du fonctionnement du Beth Amikdash, et être vu par Hachem. Être vu par Hachem, c'est quelque part être jugé. Donc, on va trois fois par an monter pour être sous le regard d'Hachem. Alors, c'est comme quand vous passez sous le regard de quelqu'un dont le regard vous importe, vous tenez à faire bonne figure, si vous voulez. Donc, quelque part, vous voyez qu'il y a une espèce de jugement. Alors, c'est pas un Yom Adin où on n'est pas du tout triste, etc. Mais il faut savoir que quelque chose se joue ici, à Pessah, à Shavuot, à Sukkot. Alors, évidemment, au Shoshana et Kippour, mais dans ces fêtes où on aurait pu penser qu'on est entièrement dans la fête, il y a aussi une dimension de jugement, comme la Mishnah nous l'enseigne. Alors, le premier jour de Ayom HaRishon de Arba Asar, la Chodesh, Ben Arbaim, Pesach Hashem. Donc, ça commence par Pesach. L'ordre, ce sera Pesach. C'est-à-dire, en fait, Rashi dit, Pesach Hashem, c'est Akravat Korban Sheshmo Pesach. Pesach ici, c'est pas la, c'est le moment où on va approcher le Korban Pesach. C'est pour ça que c'est marqué Ben Arbaim, c'est-à-dire en fin d'après-midi, Mishesh Shaot Ulmala, c'est-à-dire à partir de la sixième heure, c'est-à-dire lorsque on a passé midi, quoi, c'est le moment de s'occuper du Korban Pessah. Et à ce moment-là, on nous dit, ce jour-là, ce 14, ah, c'est le moment de s'occuper du Korban Pessah. Ou Bachamisha, Soryom, et le 15, c'est Chagamatzot. Commence vraiment Chagamatzot. En 7 jours, vous mangerez des matzot. Alors, on vous dit que le premier jour, ça sera justement un Mikra Kodesh, une sainte convocation, Yelachem, et donc ce jour-là, vous ne travaillerez pas, et vous approcherez Ishé Lachem, Ishé c'est le Lachon Esh, c'est les choses qui sont brûlées sur le Mizbeach, Shivat Yamim, Bayom Hashmini, et le septième jour, c'est de nouveau sainte convocation, un jour chômé. Ce qui est dit ici de Pessah. Vous voyez, il y a les deux choses. Il y a Pessah, mais vu sous l'angle Korban Pessah. Donc, la fête, elle commence le 14, après-midi. Le 14 après-midi, sont les préparatifs du Korban Pessah. C'est ce jour-là qui s'appelle Pessah. Bon, vous voyez le texte. Texte dit, voilà, Berba Asar la Kodesh, Ben Arbaim, Pesach Hashem. Et le 15, Chagamatzot Hashem. C'est même plus Pesach, ça s'appelle même pas Pesach. Nous, on appelle tout à fait Pesach, mais c'est un abus de langage. Ça, on en a déjà parlé. Le seul jour qui mérite d'être appelé Pesach, c'est le 14, y compris la nuit du 14 au 15, jusqu'à minuit d'après certains, jusqu'au matin d'après d'autres, où on peut manger le Korban Pessah jusqu'au matin, d'autres disent qu'on peut manger avant minuit, mais ça c'est Pessah. Après, Chagamatzot c'est plus Pessah. On ne parle plus du Korban Pessah à ce moment-là. C'est la fête des Matzot. Qu'est-ce que c'est la fête des Matzot? Mange des Matzot. On consiste à manger des Matzot. Et c'est même pas une obligation de manger des Matzot, d'accord? Parce que à part le soir du Seder, il n'y a pas d'obligation de manger les matzot. Si quelqu'un ne veut pas manger de matzot, il veut manger, si c'est un Tunisien, il va pouvoir manger du riz. Et si c'est pas un Tunisien, il mangera des pommes de terre. À partir du moment où le camarade parmentier, il a amené les pommes de terre, alors on peut manger les pommes de terre. Avant, on mangeait, je sais pas quoi, le tabaga, je sais pas qu'est-ce qu'on mangeait, le chou, je ne sais pas. Qu'est-ce que nos ancêtres mangeaient avant Parmentier. Quand on voit le rôle que jouent les pommes de terre chez les Ashkenazim, on peut se demander effectivement qu'est-ce qu'on mangeait avant. Mais bon, ils ont trouvé à manger certainement. Et c'est tout. Alors, bien sûr, il va y avoir des corbanotes. Vous apporterez chez il y a des corbanotes. On ne précise pas vraiment non plus quel korbanot, vous apportez les choses qui vont être brûlées, Ishé, Lachem. Ishé, ça veut dire, donc je l'ai dit, Lachon Esh. Les choses qui vont être brûlées sur le misbère. C'est tout. Donc, Pessah, c'est le 14, après c'est Chagamatzot, et le premier jour et le dernier jour, c'est Chomé. On apportera des korbanot, et si tu veux manger, tu manges du pain, tu manges des matzot. si tu veux. Après le grand de Vilna, si tu manges des matzot, tu fais une mitzvah, ça s'appelle une mitzvah kiyumit, c'est-à-dire, si tu le fais, c'est une mitzvah, mais tu n'as pas d'obligation, c'est pas une mitzvah obligatoire. Et ensuite, on passe, « Vaydaber Hashem el Moshe les morts, parle au Bnei Israël et tu leur diras, quand vous arriverez dans ce pays que je vous donne, et vous en serez arrivés à la moisson, alors vous approcherez le Homer. Réchit Kitzirchem. Vous approcherez un Homer, c'est une quantité. Vous approcherez un Homer qui sera le Réchit, le Bikurim, les prémices de votre moisson. Vous allez l'amener au Cohen. Qu'est-ce que le Cohen va en faire? Ben, il va venir, il va balancer ce Homer, cette quantité-là. On n'a encore pas dit de quoi c'est. Devant Hachem, Birtzonchem, pour que ce soit agréé, vous. Et ça, quand est-ce qu'on fera ça? Mi machorat à Shabbat, yenifenu à Cohen. Le lendemain du Shabbat, le Cohen le balancera. Et va sitem yom anifrem et haomer. Quand vous balancerez le haomer, vous ferez en même temps un korban keves tamim ben shnato, un agneau entier, donc sans défaut, d'un an, qui sera entièrement une ola, entièrement consumé. Ce sera pour Hachem. Et la mincha, quand on apporte un korban, on apporte aussi du végétal avec. Vous allez apporter une crêpe qui aura shnei esronim, deux dixièmes de la mesure standard d'une solette, c'est-à-dire c'est une farine super tamisée, lula pétrie avec de l'huile, ishé l'Hachem. Ce sera brûlé pour Hachem, on verra que c'est pas tout, mais une partie. Réach nichoach, en odeur agréable. Et puis, il va y avoir aussi des libations, qu'on apporte un korban, de la viande, on apporte du végétal, on apporte de la boisson, enfin du liquide. Le liquide, c'est du vin, on va apporter revit à in, un quart de hin. Et puis, ve lechem ve kali ve charmel, lotochlu ad etzem hayom hazeh. Et maintenant, jusqu'à ce jour-là, où vous aurez apporté le korban Omer, vous n'aurez pas le droit de manger, sous-entendu, sous quelque forme que ce soit, du blé, enfin des céréales, jusqu'à ce jour-là, jusqu'à un moment où vous avez apporté ce korban pour votre Dieu. C'est une règle éternelle pour toutes vos générations, où que vous soyez. Ça, c'est le din qui s'appelle Hadash. De la nouvelle récolte, on ne peut pas en manger avant qu'on ait apporté le homer. Les gens ne peuvent pas en manger. Alors, c'est curieux parce que on a l'impression qu'on avait fini avec les 16 jours de Pessah, mais c'est pas complètement fini. On nous dit quelque chose concernant le lendemain du Shabbat. Vous avez vu dans le verset 11, Vénif Yudalef, donc, est à Homer. Il balancera le Homer devant Hachem, ce sera l'Irtzonchem, pour que ce soit, vous fassiez agréé. Le lendemain du Shabbat, le Kohen le balancera. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rashi. Réchit Ketirchem, ce sera le début de votre moisson. J'étais Rishona Lektsir. Ça doit être la première chose qu'on va moissonner. Alors, Homer, Rashi nous dit qu'est-ce que c'est ce Homer. Homer, c'est écrit Homer dans la Torah, on ne sait pas ce que c'est. Rashi dit, c'est Asirit Efa, un dixième de Efa, Kahaita Shma. Le nom de ce Korban, de cette chose-là qu'on amenait, c'était Homer, qui est en fait le nom de c'est la mesure, c'est comme si on l'avait appelé, c'est pas décilitre. Vous allez apporter un korban décilitre. C'est une mesure. C'est un déci effa. C'est-à-dire un dixième de FA. C'est marqué par ailleurs qu'on va mesurer avec le homère, en fonction du homère. Donc on voit bien que c'est une mesure et que c'est appelé comme ça. Enif, balancer. Kolt nufa. Alors qu'est-ce que ça veut dire balancer? Alors Rashi nous dit, si on ne sait pas, c'est molir ou mevi, male ou morit. C'est-à-dire on fait un mouvement molir mevi, male morit. Un mouvement à partir de soi, vers l'extérieur de soi, et on le ramène à soi, horizontalement et verticalement. Et là aussi, c'est quoi ça? Cette pratique là, étrange, ce mouvement, tu prends un peu de... On n'a pas dit d'ailleurs, on dit que c'est une mesure d'un dixième de FA, on ne sait pas de quoi d'ailleurs. Mais bon, enfin, vous savez que c'est les séorim, que c'est de l'orge. Donc on va prendre ça, on va le balancer. Et Rashi nous explique, c'est quoi ça? C'est molir ou mevi, c'est-à-dire chasser et ramener. Ça veut dire la sor ou chot raot. C'est pour arrêter les mauvais vents. Malé ou morit, et faire monter et descendre, c'est la tsor talalim raim. C'est pour bloquer les mauvaises pluies ou rosées. Tal, c'est la rosée, a priori, talalim, de façon générale, c'est donc comme les pluies, enfin tout ce qui descend du ciel, quoi, etc. Donc, curieusement.
C'est le même mouvement que les loulaves.
Sauf que nous, dans le loulave, on va pas le faire seulement molir ou mevi. On va faire molir ou mevi et les arba ruchot, les quatre directions cardinales. Ici, c'est seulement marqué molir ou mevi. Il n'a pas dit que c'est aux quatre directions. J'ai l'impression que c'est seulement chasser et ramener. C'est intéressant parce que on parle ici de pluie, quoi. De vent et de pluie. Quand on va dire la même chose avec le loulav, on comprend parce que Sukkot, le sujet de Sukkot, c'est la pluie et l'eau. D'accord? Comme je vous ai dit, à Sukkot, on est jugé sur l'eau. Alors, on comprend qu'on s'occupe des pluies et des vents. Mais ici, on est à Pessah. On est en automne, au début du printemps. Donc là aussi, il y a aussi un problème de gérer. Donc c'est très intéressant. Ça veut dire que, après qu'on se soit occupé du Korban Pessah, c'est-à-dire de la sortie d'Égypte, encore qu'on a fait ce qu'il fallait, mais c'est pas même, on n'a pas parlé du Seder, etc. ici, mais ni du récit de la sortie d'Égypte, mais on s'est quand même visiblement occupé de la sortie d'Égypte parce que le Korban Pessah fait référence chez nous à la sortie d'Égypte, mais dans la version d'Abraham, ça fait référence à la proclamation de l'unité d'Hachem. De l'unité et de l'unicité d'Hachem. Vous vous souvenez? Enfin, peut-être pas. Donc, on a fait le date sur Pessah. Et ici, on a un souci de la météo, quoi, quelque part. Parce qu'on est très conscient. On va parler on va parler de l'année solaire, parce que l'agriculture, elle dépend de l'année solaire et pas de l'année lunaire. Donc, comme on va parler ici des problèmes d'agriculture et de façon générale, on sait très bien que le grand problème, c'est la météo. C'est-à-dire qu'à la limite, qu'il y ait du soleil ou pas, le soleil, lui, mais ça dépend s'il va y avoir de la pluie et des bons vents. Donc, il s'agit ici de gérer. Et c'est intéressant qu'on commence par chasser les mauvais. D'accord? C'est-à-dire que la première tâche, c'est de chasser les mauvais, c'est pas de prendre les bons puis ensuite chasser les mauvais. Non, il faut d'abord commencer. Comme si on disait sur merab et asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Et on chasse le mauvais et on rapproche le bon. D'accord? Et donc, c'est quand? Alors, c'est marqué que vous ferez ça, l'irtonchem, c'est-à-dire, c'est un agrément, im takrivu, si vous approchez ça, kamishpat, selon la règle, zeyeh leratzon lachem. Ceci, ce sera quelque chose pour vous faire agréer. Bon, on va fabriquer le ratzon d'Hachem, la volonté d'Hachem, quelque part, un peu comme dans la prière, fabrique ce ratzon d'Hachem. Pour qu'Hachem veuille ce que vous voulez, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'Hachem vous veuille du bien, il faut faire ça. Et alors vous allez le faire, mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Alors, tout de suite on traduit que le lendemain de Shabbat veut dire ici, mimachorat yom tov, arishon shel Pesach. Premier jour de Pessah dont on a parlé ici, Rashi l'appelle ça, s'il avait été tout à fait cohérent, si on peut parler comme ça de Rashi, Mechila, il aurait dû dire ici Yom Tov Rishon, le lendemain du Yom Tov Rishon, qui est déjà, le Yom Tov Rishon, c'est déjà Chagamatzot, le 15. Yom Tov Rishon, c'est le 15. Mais peut-être qu'il veut dire ici que le Yom Tov Rishon, c'est, bon, du point de vue des Korbanot et de Shabbat et de l'interdit, c'est pas le 14. Le 14, on peut travailler, bien sûr. Il n'y a pas d'insérie sur Melacha. C'est le 15. Mais d'une certaine manière, le premier jour de Pessah, c'est le 14. C'est le 14 après-midi. Comme si on allait assimiler ce 14 après-midi au premier jour de Yom Tov. C'est comme si le premier jour de Yom Tov, il n'avait pas 24 heures, mais il commençait déjà à la sixième jour, à midi la veille. Et si on veut, on pourrait dire, c'est presque cohérent avec le fait qu'il se termine aussi à minuit du 15, la nuit du 15. Donc ce serait une espèce de jour qui irait de midi à minuit, si on pense qu'on doit manger le Korban Pessah avant minuit. Sheim ata omer Shabbat Bereshit, yata yodea ezeu. Rashi dit, on est obligé de dire que ça fait partie, c'est le premier jour de Pessah, parce que si tu voulais prendre Shabbat au sens habituel du terme, tu ne saurais pas de quel Shabbat on parle. Donc, à la limite, c'est présenté comme si c'était par défaut. Comme si je lisais, si je lis Shabbat au sens habituel du terme, je ne sais pas quand c'est. Donc ici, on aurait une mitzvah qui nous est donnée, mais on ne sait pas quand il faut la faire. Il faut le faire le lendemain de Shabbat, mais c'est quoi le lendemain de Shabbat? C'est, le lendemain de Shabbat Hanouka, c'est quand? Alors, on va partir du lendemain de ce qui est considéré comme un Shabbat, dans le premier Shabbat dont on parle. Et quelque part, Yom Tov, on a vu qu'ils sont un peu comme Shabbat. Parce qu'on a dit que celui qui fait Yom Tov, c'est comme s'il avait fait Yom Tov. Donc de ce point de vue-là, le premier des Shabbatot qui se présente dans ce texte, les Moadim, c'est le premier jour de Pessah. Donc le lendemain de ce premier jour de Pessah, vous allez approcher vers ce balancement du Homer. Vasitem, et vous allez faire Keves Echad. Maintenant, on continue. On est dans la procédure du Korban Pessah, du Korban Omer. Donc, il y a, au cours de Pessah, donc le deuxième, pour nous, ça voudrait dire le deuxième jour de Pessah, d'accord, le 16 Nissan, si vous préférez, le 16 Nissan, il y a, à part le fait qu'il faut manger des matzot, d'accord, il y a un Korban à apporter. Il faut apporter ce Korban, là, à ce moment-là. Vous allez apporter un agneau. Chova le Omer. Ça vient comme une obligation qui vient avec le Omer. Alors vous allez apporter cet agneau. Vous allez apporter sa mincha. C'est-à-dire mincha de sachav. C'est la mincha qui accompagne le libation. Il y aura deux estronimes, deux dixièmes de Efa de nouveau. Fula Aita. C'est kaful, c'est double. Pourquoi ça doit être double? Schnei, c'est marqué deux estronimes. On aurait pu dire un cinquième, au lieu de dire deux dixièmes. Mais les mesures là-bas, c'est des dixièmes. Venisco yain revitain, et les libations de vin sont faites avec un revit, un quart de hin. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup de vin. Voilà, donc, voilà ce que, excusez-moi, voilà ce que Rashi dit concernant ce korban du Homer. Et puis, à partir de ce korban qu'on aura apporté, là, je veux que j'ai pas fini le Rashi. Afalgav shemin chatok fula, en nesachav fulim. Donc, bien que la mincha, elle soit considérée comme un doublet, puisqu'on dit deux esronim, on aurait pu pas dire deux revites aussi. Non, on donne un seul revite, donc Rashi souligne le fait, c'est la Gemara qui souligne le fait que, bien que on apporte quelque chose de double, alors que ce double-là, il vient accompagner le sechim. La mincha, elle n'est pas présentée comme une mincha qui accompagne l'agneau qu'on a amené. Et c'est marqué dans Rashi, minchat nesachav. C'est la mincha des nesachim. La mincha des libations. Donc, elle a l'air d'être secondaire à la libation. Alors, comment se fait-il qu'elle est secondaire à la libation? Elle est double, la mincha, alors que la libation elle-même est simple. C'est Rashi le souligne. Vekali, c'est-à-dire, c'est kemar asui mi karmel rach shemiavshim oto betalo. Donc, ce sont des grains grillés, ou de la farine grillée, qui est faite à partir des grains mous qu'on met à sécher dans le four. Charmel en kayot shekorin granelé, je sais pas, quelque chose comme ça. Il dit alem in kerner. Ouais. Bon, ça veut dire on a pris c'est des grains de blé. Et b'chol moshvotechem, dans toutes vos résidences. Et là, Rashi rapporte, l'echlekubo chachme Israël. Et une machloket entre les chachamim, yesh shelamdu mikan, shehachadash noeg bechutz laaretz. Comme c'est marqué dans toutes vos résidences, il s'agit du din de chadash, c'est pas l'interdit de manger de la nouvelle récolte, tant qu'on n'a pas apporté à Yerushalayim le korban omer, ça s'appelle chadash. Le Hadash assur Minatora. La nouvelle récolte est interdite Minatora tant qu'on n'a pas apporté ce corban. Maintenant la question c'est, est-ce que le Chutz Laaretz, il y a aussi un interdit? Est-ce que dans la récolte en France, il y a aussi un issur de Hadash ou non? Alors c'est une marloquette. Certains disent, Yeshelam Dumikan Sheh Hadash Noeg, Bechutzlaaretz, puisque c'est marqué Bechol Moshvotechem, dans toutes vos résidences. Par exemple, quand il sera dit au sujet du Shabbat, l'otevaru esh Bechol Moshvotechem, vous ne ferez pas de feu dans toutes vos résidences. On ne dit pas que l'interdit de faire du feu le Shabbat ne concerne qu'Eretz Israël. D'accord? Ça nous concerne nous aussi en France. Donc, Bechol Moshvotechem, pour eux, ça veut dire, y compris en France. Il y a aussi un interdit de Hadash, avec tout ce qui pousse en dehors de l'Eretz Israël aussi. Yeshomrim loba ela lelamed shelo nitztavu al hadash ela leachar yerusha v'yishiva v'yishikavshu v'chalku. D'autres disent que le verset veut dire bekol moshvotechem, ça vient dire que il n'y aura d'obligation de tout cela que quand on aura conquis la terre d'Israël, c'est-à-dire quand Yoshua aura conquis. Et pendant 14 ans, il y aura la conquête et puis ensuite la répartition des territoires entre les différentes tribus jusqu'à ce que le clan Israël soit installé en quelque sorte en Eretz Israël. Donc la question, c'est d'après certains, c'est que cette obligation, même en Israël, elle ne commence que quand Israël sera vraiment installé, c'est-à-dire à entrer en Israël plus 14 ans. Donc c'est Marloquette. Donc c'est Marloquette aussi aujourd'hui, quand il y a, a priori, normalement, on ne doit pas manger de Khadash en Khoutzlaret. Non, il faut savoir, est-ce qu'il y a des, la définition, qu'est-ce qui s'appelle la nouvelle récolte? D'accord, ça veut dire, ça concerne essentiellement les pays dans lesquels il y a deux récoltes de céréales. Alors, par exemple, en Amérique, c'est très fréquent et donc, on a des gens qui veulent respecter ça. Et aujourd'hui, ça, je connais pas vraiment toute l'Amérique. Mais disons, un endroit comme l'écoute, je me souviens que les premières années, quand on y allait, mon fils qui faisait attention à ça, il avait du mal à trouver du pain, de la farine, c'était une expédition. Et maintenant, pratiquement partout, les gens font attention à Khadash. Et donc, à partir du moment où les gens font attention, alors il y en a beaucoup plus de présenter. Pratiquement, en Israël, tout ce qui se vend est toujours, il n'y a pas de problème de Khadash. Toujours marqué, même quand c'est pas marqué, on est en général en Israël, c'est bon. En France, il faut aller regarder d'un peu plus près pour savoir certaines choses ont des problèmes de Khadash et d'autres n'ont pas. Donc ça dépend à quel moment de l'année vous achetez les choses. Bon. C'est technique.
Donc, ah,
oui. Il parle.
Est-ce qu'il y a un dîme de Rov? Est-ce qu'il y a un dîme de Rov ou de Hazaka?
Pas. Pas entendu que on est d'après le Rov. Parce que si on allait d'après le Rov, bon, ça serait plus facile, je crois. Mais je crois pas. Ouais, je connais pas vraiment, je connais l'interdit, je fais attention à ça, mais je me suis jamais occupé de savoir s'il y avait un dîme de Rov et je pense pas qu'il y ait un dîme de Rov. Sinon, en route de l'arrêt, ça m'étonnerait qu'on soit, qu'il y ait un Rov de Khadash. Donc, a priori, on devrait pouvoir, si c'était comme ça, on pourrait en manger. Je sais qu'il y a des groupes religieux juifs qui font pas moins attention. Peut-être que ça vient de ce que ces gens-là habitaient des régions dans lesquelles il n'y avait pas ce problème. Donc ils n'ont pas pris l'habitude de faire attention. Alors, c'est Mimachorat à Shabbat, donc Mimachorat Yom Tov. Donc, après le premier jour, voilà, on est donc dans la phase, on est le deuxième jour, le 16 Nissan. Et ensuite, à partir de ce jour-là, Usfartem Lachem Mimachorat à Shabbat, vous allez compter pour vous, à partir de ce lendemain de Shabbat, donc à partir de ce jour où on aura apporté Miyom Avi Achem et Tomer à Tnoufa, dès que le jour où on apporte ce Omer balancé, vous compterez sept semaines, tmimim, entières, yena, elles seront. Donc, il faudra compter sept semaines entières. Ad, imachorat, shabbat, ashvi'it, jusqu'au lendemain du septième shabbat, en fait, la fin de la septième année, de la septième semaine, Tisperu, vous avez compté donc Hamishim Yom. Enfin, comme vous savez, comme c'est un peu nouveau ici, on va compter sept semaines et jusqu'à preuve du contraire, sept semaines, ça fait 49 jours, ça fait pas 50. Donc, quand on dit vous allez compter 50 jours, c'est pas vrai, on compte pas le 50e jour. Mais vous allez compter 49 et le 50e jour, c'est comme ça qu'il faudra lire. Bikraftem Milcha Khadasha Lachem. Ce jour-là, ce 50e jour, vous allez apporter une offrande avec la nouvelle récolte. C'est en ça qu'elle est une nouvelle offrande. C'est pas une nouvelle offrande, c'est une offrande avec la nouvelle récolte. Avec Lachem. Alors, il faut préciser les choses. Je vous ai dit, on a vu que on peut pas manger. Nous, on peut pas utiliser la farine, enfin, de façon générale. Donc, la farine de la nouvelle récolte avant qu'on ait apporté au Beit HaMikdash le Homer balancé. Donc, le 16 Nissan. Mais ça, c'est pour nous, pour monsieur et madame tout le monde. Mais au Beit HaMikdash, comme vous avez vu, on apporte sans arrêt des mnachot. sans arrêt, on amène les mnachot, a priori, les mnachot, elles sont faites en blé. On ne peut pas amener, même après le 16 Nissan, on ne pouvait pas apporter ces mnachot avec du blé de la nouvelle année. Le matir, ce qui va permettre d'apporter des mnachot faites avec la nouvelle année, et avec la récolte de la nouvelle année, c'est d'avoir apporté cette fameuse mincha hadasha. Comme vous savez, c'est Shavuot, on va le voir. D'accord? La mincha hadasha, c'est les jeté alechem. C'est les deux pains qu'on va apporter à Shavuot. Ces deux pains, ils seront faits avec la nouvelle récolte. Et à partir de ce moment-là, et à partir de ce moment-là seulement, au Beit HaMikdash, on pourra aussi utiliser la farine de la nouvelle récolte. Donc, on n'a pas le même zman d'utilisation. Nous, on peut l'utiliser à partir du 16 Nissan. Et au Beit HaMikdash, on ne peut pas l'utiliser avant le Sissiban, avant Shavuot. D'accord? Et donc, il faudra attendre Shavuot. Donc, les deux sont des matirs. Il y a un matir qui permet la nouvelle récolte pour monsieur et madame tout le monde, c'est le Homer. Ce qui permet la nouvelle récolte pour le Beit HaMikdash, c'est l'Echté Alechem, le Korban qu'on apportera, on n'en entend pas parler explicitement, qu'on va apporter à Shavuot. Donc, vous allez apporter le 50e jour Mincha Chadasha Lachem. Mimosh Potechem Taviu Lechem Tnufa Shtaim Shnei Esronim Solet Tiena Chametz Tiafena Bikurim Lachem. Donc, la spécificité de cette nouvelle offrande, c'est que ce sera Mimosh Potechem, vous allez l'amener de vos résidences, donc d'Eretz Israël. Vous allez l'amener, ce pain, donc il lui aussi sera balancé, cette fois-ci sous forme de pain. Il y en aura deux qui seront faits avec deux esronim, c'est-à-dire deux dixièmes de Hefa, solette, là aussi, farine super tamisée, 13 fois, il y en a, et ça sera chametz. Ça veut dire, ici, c'est exceptionnel, ça sera teafena, ça sera boulanger en chametz. Et bikurim, donc, ce sera les premiers bikurim, donc c'est les prémices. Alors, c'est du chametz, alors que toutes les mnachot, tout se fait toujours en matzah. Il n'y a pas de chametz dans le Beit HaMikdash, sauf ces deux pains-là, et sauf, il y a aussi une autre exception, c'est que quand on apporte un korban qui s'appelle korban toda, on apporte le korban toda, on doit apporter en même temps des chalot, et les chalot, elles sont moitié matzah et moitié chametz. C'est donc avec le korban toda ou avec le korban spécifique de Shavuot, ce sont les deux seules exceptions où il y a du chametz au Beit HaMikdash. Il n'y a jamais de chametz. Chaque fois qu'on parle d'une mincha, c'est toujours kol hamnachot baot matzah. Toutes les mnachot viennent sous forme de matzah. C'est clair? Ça, il faut savoir. C'est toujours matzah. Et je crois que, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà l'heure. Voilà. Ça a été là, alors. Bon, mais si vous avez déjà gagné, vous savez déjà quand on peut manger la nouvelle récolte. C'est très bien. Et vous savez aussi quand on peut l'apporter au Beit HaMikdash. Mais bon, on n'est pas vraiment encore arrivé vraiment à Shavuot, on est juste là, au tout début. Vous voyez, c'est très étonnant comme présentation des Moadim, quoi.